avant d'aller plus loin, vous allez trouver le livret quelque part un plan qui indique ce qu'on essaye de voir ensemble. Donc, je vous invite à vous référer à ce plan si cela vous aide. Prions, chers amis, avant d'aller plus loin. Que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, et de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. Déclaration du Seigneur. Donc que tu nous aides, Seigneur, ce matin à ne pas être fier dans notre propre connaissance de quoi que ce soit, mais d'être fier du fait que nous te connaissons et nous savons que tu règnes et que tu agis sur cette terre pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Donc, donne-nous de contempler ces choses ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, peut-être vous savez, chers amis, que l'un des versets préférés des chrétiens ne se trouve pas dans Jérémie, mais se trouve dans le livre des psaumes. Et le psaume 23 dit ceci à propos du Seigneur, qui est pour son peuple, dans le psaume 23, un berger. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Des paroles très connues, même dans la société élargie, pas simplement dans l'Église. « Ta houlette et ton bâton, deux outils indispensables pour un berger. » Ta houlette, le truc avec ça, pour rattraper des brebis errantes, pour les empêcher d'aller trop loin, pour les ramener, même parfois de manière assez physique, vers les autres. Et ensuite, le bâton. Le bâton servait à quoi? Le bâton servait à frapper. Frapper des loups qui menaçaient des brebis. Donc, lorsque ce verset dit que notre réconfort, c'est pas par, et dans le fait qu'il y a sa houlette et son bâton, c'est pas parce que sa présence nous couvre comme une auréole, et du coup, d'une certaine manière, d'une manière spirituelle, si vous voulez, nous trouvons un havre de paix, malgré le bruit qu'on trouve autour de nous. Parfois, on pense qu'une église chrétienne, c'est un peu cela. C'est qu'on entre quelque part et on arrive à trouver notre propre auréole. On découvre la paix. Non, la spiritualité chrétienne n'a rien à voir avec ça. Le Seigneur est notre réconfort car il agit, lui, comme un vrai berger. Pour nous, les brebis, nous rattraper. Pour nous protéger aussi du danger. Voilà pourquoi il pouvait... Le psalmiste marchait dans la vallée de la mort, un endroit, lorsqu'il y était, où il était exposé des deux côtés du danger des voleurs et des brigands. Il pouvait néanmoins marcher sans crainte. Dieu lui-même, dans la Bible, agit pour confronter ses ennemis et pour appeler ses brebis à lui. Et il fait ça encore aujourd'hui par Jésus-Christ, celui qui est, on l'a chanté dans notre premier chant, je pense, il est le bon berger parce qu'il donne, lui, sa vie pour le bien des brebis. Oui, il est bon jusqu'à ce point-là. Et donc, c'est aussi par sa mort qu'il vainc les ennemis de son peuple. Le monde, la chair, le diable. C'est ainsi, lorsqu'il meurt sur la croix, qu'il gagne la confiance de son peuple. Car un chrétien, c'est quelqu'un qui a découvert que Dieu, en Jésus-Christ, il est digne de ma confiance. Car ce que lui, il promet, il accomplit ce qu'il promet. Lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il parle, il jouit de l'autorité nécessaire pour que ses paroles se concrétisent. Sa parole ne revient jamais à lui sans effet, dit le prophète Ésaïe. Et donc, lorsque nous arrivons en fin de parcours du prophète Jérémie, nous remarquons, je pense, les deux facettes de Dieu ici présentes. Il confronte et il confond ceux qui ne se tournent pas vers lui. Et deuxièmement, il encourage ceux qui prennent refuge en lui, ses brebis. Car d'un côté, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, dit la Bible. Mais de l'autre côté, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et donc, notre plan ce matin souligne ces deux réalités. Premièrement, le roi est mort, prenez garde, car ce que Dieu dit, il accomplit. Et deuxièmement, vive le roi. Prenez courage, car ce que Dieu promet, il accomplit. Mais avant de voir ces deux points, notons au préalable que nous avons affaire ici, au chapitre 52, à un épilogue à la fin du livre. Si vous avez la Bible ouverte, vous allez voir que le dernier verset du chapitre précédent, chapitre 51, verset 64, dit ceci. Là prennent fin des paroles de Jérémie. Donc le chapitre 52 fait partie d'une rédaction faite plus tard, après Jérémie. Et en grande partie, ce chapitre 52 ressemble fort à ce qui est écrit dans le livre de Deux Rois. Vous pouvez lire plus tard Deux Rois, chapitres 24 et 25, et vous retrouverez beaucoup de choses le même. Donc, à un moment donné, dans sa forme finale du livre de Jérémie, un rédacteur, s'agit-il de Baruch qu'on a vu au chapitre 45, ou peut-être quelqu'un d'autre, on ignore cela, une personne a ajouté cette conclusion à ce livre, une conclusion littéraire, historique, mais aussi théologique. Jérémie lui-même, il n'est pas mentionné dans le chapitre. Le Jérémie au verset 1 n'est pas notre Jérémie, le prophète, c'est quelqu'un d'autre. Il s'agit donc d'une conclusion littéraire, car le livre commençait au chapitre 1, verset 2, si vous avez ça sous les yeux, en parlant du ministère de Jérémie qui démarrait durant le règne de Josias jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, le moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. Et notre chapitre, au verset 27, termine au même endroit. Que dit le verset 27 ? Ainsi, Juda fut exilé loin de sa terre. Donc, l'exil a bien eu lieu. Le peuple de Juda fut emmené à Babylone. Et le ministère de Jérémie couvrait toute cette période-là. Le chapitre donne un certain nombre de précisions historique au sujet des dates et des circonstances autour de la chute de Jérusalem et de l'exil. C'est cette partie-là qu'on a un peu sauté parmi d'autres pendant la lecture. Mais le chapitre donne non seulement une conclusion littéraire et historique, mais aussi et surtout théologique. Car le rédacteur connaît bien ce que Dieu avait dit au début de son ministère à son prophète Jérémie, au chapitre 1, verset 10. C'est le verset clé de l'ensemble de ce prophète Jérémie. Verset 10 du chapitre 1, « Regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes. » Pour faire quoi ? Pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. Et notre premier point, donc, sur notre plan, souligne la première partie de ce verset 10 du chapitre 1. Car Jérusalem et tout ce qui s'y trouve, notamment le temple de Dieu, est bel et bien déraciné, démoli, elle disparaît, elle est rasée. Mais le chapitre évoque également, et c'est notre deuxième point, cette lueur d'espoir que Dieu prend du plaisir aussi à bâtir et à planter. Et c'est bien l'élément d'espoir que nous aborderons dans ce deuxième point. Donc allons-y pour les détails. Premier point, le roi, il est mort. Prenez garde, car ce que Dieu dit, il accomplit. Le roi ici, il s'agit de Sédécias, le dernier roi de Juda, un jeune qui régnait 11 ans à Jérusalem, juste avant l'exil. Nous avons vu de près Sédécias au chapitre 37, 38, 39. On ne va pas revenir sur tous ces détails-là. Mais le verset 2 du chapitre 52 souligne le pourquoi de son sort. Il fit ce qui déplaisait au Seigneur, tout comme son père, Jehoiakim. Et du coup, le verset 3 nous dit clairement que la suite arrive dans Jérusalem et Juda à cause de la colère du Seigneur. L'exil, donc jusqu'à ce qu'il les rejette loin de lui, le verset 3, a lieu car le Seigneur lui-même est derrière ce qui arrive. Au lieu d'agir en lien avec les conseils, les prophéties de Jérémie, de se rendre aux Babyloniens comme il fallait, car dès le début, c'est ce que Jérémie avait annoncé, faire cela n'aurait pas empêché l'exil, mais cela aurait garanti une fin plus agréable pour Sédécias. Mais au lieu de faire ça, il essaie désespérément de trouver des solutions ailleurs, auprès des Égyptiens. Et c'est ainsi, verset 3, qu'il s'est rebellé contre le roi de Babylone. Mais ça ne marche pas. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, attaque Jérusalem et la ville, verset 5, fut en état de siège jusqu'à la 11e année du roi. Qu'arrive-t-il au moment où il n'y a plus rien à manger dans cette ville de Jérusalem? Le roi et ses attendants, les hommes de guerre, prennent fuite et sortent lorsqu'ils voient, verset 7, qu'une brèche fut ouverte dans la ville, laissant du coup les habitants de Jérusalem à leur propre sort devant les Babyloniens. Donc ici, le roi, Sédécias, dans la lignée de David, lui, il devait écouter Dieu lui-même en tant que roi établi par Dieu. Il devait se soumettre à la parole de Dieu. Il devait agir en tant que berger de Juda. Comme David, comme dit le psaume 78, verset 71, le berger devait les diriger avec un cœur intègre, devait les guider avec des mains habiles. Mais il est difficile d'imaginer un échec plus cuisant en tant que berger que celui de Sédécias, qui n'écoute pas Dieu et s'enfuit et abandonne son troupeau au loup. Mais verset 8, les Chaldéens poursuivent le roi et le rattrapent. Il est amené devant le roi de Babylone qui, lui, prononce ses jugements. Verset 10, il fit égorger ses fils et ses princes. Il fit crever les yeux de Sédécias. Il est attaché avec des entraves de bronze et mené prisonnier à Babylone, là où il restera jusqu'au jour de sa mort. Donc ce roi rebelle et désobéissant ne réussit pas son coup. Tout ce que Jérémie avait prédit s'est réalisé. Tout ce que Dieu avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Jérémie n'est pas mentionné, cela souligne que l'acteur ultime derrière ces événements, c'est bel et bien Dieu. Le péché du peuple était persistant, délibéré, pervers. Loin d'adoucir le cœur du peuple, la promesse du jugement que Dieu, par miséricorde, avait sans cesse repoussé jusque-là, n'a fait qu'engendrer un endurcissement du cœur du roi et du peuple. Et un tel endurcissement, ça peut encore arriver, chers amis. Se détourner de Dieu, refuser de croire ce qu'il dit, au lieu de pouvoir un jour provoquer la repentance, ça peut encore provoquer plus d'endurcissement. Et donc voilà pourquoi on dit prenez garde, car ce que Dieu dit, il accomplit. Et le jugement tombe non seulement sur le roi, nous dit ce chapitre, mais sur le temple qui est saccagé dans les versets 17 à 23 qu'on n'a pas lu. Le temple, l'endroit sacré pour Juda, soigneusement construit selon les instructions de Dieu données à Salomon, l'endroit sacré là où le Dieu d'éternité daignait de demeurer parmi son peuple, est détruit. Verset 13, il brûla la maison du Seigneur. Et pas seulement le temple, mais aussi la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Et plus loin encore, il démolit les murailles de Jérusalem. Et ensuite, le pays, la terre, est également vidé de ses habitants. Et on arrive donc à ce verset 27, Juda fut exilé loin de sa terre. Donc on termine, et le roi Davidique vaincu, le temple de Dieu dévasté, la ville de Jérusalem détruite, le peuple de Dieu exilé. On dirait la fin pour ce peuple. Et pour son Dieu, n'est-ce pas? Mais cette conclusion au verset 52 nous rappelle que le jugement tombe de la part de Dieu lui-même. Car ce que Dieu cherche n'est pas un peuple fier de leur propre tradition religieuse, ses propres rites religieux. Ce qu'il cherche, c'est un peuple qui lui fait confiance, qui cherche sa face, qui marche selon ses voies. Faute de cela, il fera ce qu'il dit. Qu'avait-il dit à Jérémie au chapitre 1, verset 9 ? Je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser. Si on était à Jérusalem à ce moment précis de l'histoire, on aurait dit que la défaite du royaume de Juda était définitive. On aurait dit que son roi était un grand loser. On aurait dit que le Dieu d'une telle nation est loin d'être un Dieu qui est impressionnant. On aurait dit plutôt un Dieu faible et incapable de protéger les siens. Pour finir, on aurait déduit qu'il n'est rien qu'une autre divinité créée par des hommes afin de chercher à apaiser de sens large le divin. Mais on aurait eu tort. Jésus, lorsqu'il meurt sur une croix romaine, est abandonné, flagellé, incapable de se sauver d'après des moqueries qu'il devait subir. Oh, mais combien ils avaient tort, ceux qui se sont moqués de lui. Et nous avons encore tort si nous pensons que Dieu est faible, qu'il n'est peut-être pas plus qu'une invention humaine, qu'il est incapable, ce Dieu, de réussir face à la puissance impressionnante des hommes aujourd'hui. Dieu, pense-t-on, je n'en ai pas besoin, car peut-il faire ce Dieu pour moi? Que je l'ignore, que je le méprise, et cela revient au même, qu'est-ce que cela change pour finir? Oui, d'un point de vue externe, suivre ce Dieu, le Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus-Christ, c'est encore de suivre un Dieu qui n'est pas très impressionnant, qui a été renvoyé de son propre peuple, qui a été crucifié, qui a subi l'humiliation, mais bien qu'il soit crucifié, et cela a l'air d'être une défaite humiliante, Dieu l'a ensuite ressuscité à la vie. Et sa mort se révèle comme étant le moyen par lequel nous pouvons prendre refuge lorsque ce Dieu reviendra en jugement pour régner pour toujours. Le peuple de Dieu doit encore savoir aujourd'hui que la défaite apparente de Jésus-Christ, avec beaucoup de personnes qui ignorent, beaucoup de personnes qui ne pensent pas avoir besoin de lui, Parce que cela est attendu dans les Écritures. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse 13, on en a parlé la semaine dernière, mais Apocalypse 13, verset 7, dit au sujet de la bête qui symbolise la rébellion humaine, « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçoit, cette bête, l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. » Cela donc semblerait totalement normal de traiter Dieu comme s'il n'existait pas. Mais notre chapitre 52, il est placé où dans le livre? Juste après les chapitres 50 et 51, qui eux ont signalé plus tard la défaite ultime de la bête de Babylone. Malgré sa force, malgré le fait que le Seigneur s'est servi d'elle pour accomplir ses jugements. Et donc, Apocalypse 17, verset 14, « Bien qu'ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. » Et donc, si notre première exhortation, c'est de prendre garde, car ce que Dieu dit, il accomplit, la deuxième tourne autour de cet autre roi, le Seigneur Jésus. Donc, vive le roi, deuxième point, prenez courage, car ce que Dieu promet, il accomplit. Dans notre texte, ce roi de ce deuxième point s'agit premièrement de Jehoiakim. Jehoiakim, c'est difficile avec les différents rois de cette époque. Jehoiakim, c'est le fils de Jehoiakim, avec un M. Et ce Jehoiakim, c'est le petit-fils de Josias, le dernier bon roi qu'il y a eu. Il est devenu roi rien que pour 3 mois. Après la mort de son père qui s'est rebellé contre les Babyloniens. Mais il avait été déporté à Babylone avant la destruction de Jérusalem. C'était son oncle, Sédécias, qui lui avait succédé à Jérusalem. Lui, Jehoiakim, il passe 37 ans emprisonné comme un esclave à Babylone. Un peu, je suppose, comme l'ex-président vénézuélien, Nicolas Maduro, qui se trouve actuellement, je pense, incarcéré au Metropolitan Detention Center, une prison fédérale de haute sécurité située dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis. Pour combien de temps? J'espère pour lui que ce n'est pas 37 ans, mais qui sait. Verset 31 de notre texte. La 37e année de l'exil de Jehoiakim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil Mérodac, super prénom celui-là, n'est-ce pas, roi de Babylone, dans la première année de son règne, gracia Jehoiakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Mais pourquoi l'a-t-il gracié? On ne sait pas. Mais éventuellement pour célébrer une victoire babylonienne, pour démontrer sa largesse, un peu, si vous voulez, comme un président américain qui a le pouvoir de gracier certaines personnes incarcérées pour des crimes fédéraux. Trump avait fait pour de nombreuses personnes condamnées pour la participation aux événements de Capitole. C'est ce genre de choses qui a lieu. Le mot que nous avons ici traduit « gracier » dit littéralement, comme le second 21 le dit, « releva la tête ». Il a alors relevé la tête de ce roi, Jehoiakim. Comment? Verset 32. « Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit enlever ses vêtements de détenu. Jehoiakim mangea devant lui constamment tous les jours de sa vie. Son entretien constant, lui fut assuré de la part du roi de Babylone, selon l'ordre de chaque jour, jusqu'au jour de sa mort, tous les jours de sa vie. » Donc ici, nous avons un descendant de David qui est traité avec bonté et estime, habillé correctement. Il mangeait à la table du roi jusqu'à la fin de ses jours. Cette conclusion du livre laisse entendre qu'il y a encore donc un descendant de David qui connaît un petit rétablissement à ce stade. Donc le livre souligne que la lignée de David n'a pas été détruite totalement. Le roi de Babylone préserve, sans le savoir, la lignée davidique. Cela a été attesté dans les archives babyloniennes qui mentionnent la ration alimentaire allouée au roi de Juda. Oui, ce roi Jehoiakim, il mourra lui aussi en exil. Et oui, son peuple Juda est toujours en exil à ce moment-là. Et comme les chiffres que nous avons dans les versets 28 à 30 confirment, il s'agit d'un peuple très peu nombreux. Les chiffres que nous avons ici, contrairement aux autres chiffres que nous avons dans le livre de Deux Rois, désignent, nous pensons, des hommes adultes, pas toute la population. Et donc, 4600 hommes n'est pas une grande nation. Mais au moins, ce peuple existe encore, Juda, bien que tout petit. Et leur roi est honoré au-dessus des autres. Le livre ne se termine finalement pas alors par un jugement, mais sur cette lueur d'espoir. Dieu n'a pas encore fini avec la dynastie davidique. Les premières lueurs de promesses contenues dans la prophétie de Jérémie se profilent à l'horizon. Car rappelons-nous des promesses données par Jérémie au sujet d'un descendant de David. Chapitre 30, la partie qui commence à annoncer la nouvelle alliance qui doit encore venir. Chapitre 30, verset 8. « En ce jour-là, déclaration du Seigneur des armées, je briserai le joug qui faisait peser sur ton cou, j'arracherai tes liens et des étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront le Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, Jacob, mon serviteur, n'aie pas peur, déclaration du Seigneur. Ne sois pas terrifié, Israël, car je te sauve de la terre lointaine et ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du calme et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. » Cette promesse-là d'un descendant de David qui régnera est liée dans ces chapitres 31, 32, 33 à la promesse d'une nouvelle alliance faite avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance perpétuelle qui permettra que chacun de cette alliance reçoive le pardon de leurs péchés. « Je pardonnerai leur faute, disait Dieu. Je ne me souviendrai plus de leur péché. » Et donc, c'est ainsi que la deuxième partie du mot d'envoi que Dieu avait donné à Jérémie au chapitre 1, verset 9, au début de son ministère, prendra forme. Car s'il a été envoyé, on l'a vu, pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, il avait également été envoyé pour bâtir et pour planter. L'histoire de Juda, nous sommes invités à le voir, n'est pas encore terminée. Les prophéties annoncées par Jérémie pour la période après l'exil sont donc encore à venir. Dieu ne les a pas oubliées, car ce qu'il promet, il accomplit. Alors avec ça en tête, on peut faire un saut vers l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Premier chapitre. Verset 11, dans la généalogie de Jésus-Christ. Verset 11, Josias engendra, alors ici, Jéconia ou Jehoiakim et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jehoiakim engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, etc. On arrive au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Vous voyez, ce roi gracié en Babylone, au chapitre 52 du prophète Jérémie, se trouve, lui, dans la généalogie de Jésus-Christ. Le descendant de David par excellence, qui régnera, lui, pour toujours. Donc, ni apostasie judéenne, ni le militarisme babylonien ne peuvent renverser les promesses de Dieu. L'alliance éternelle que Dieu prépare pour son peuple. De Jéhoiakim viendrait le roi des rois, Jésus-Christ. Et donc, oui, vive le roi, effectivement. Alors, peut-être vous le savez, notre église tire son nom, Église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe, de l'une des deux, ou même des deux communes de Woluwe. Et Woluwe, c'est quoi? C'est le nom de la rivière qui traverse ces deux communes. Elle s'écoule principalement à ciel ouvert, peut-être vous l'avez vu, vous l'avez promenée à côté, le long du boulevard de la Woluwe. Elle n'est pas grande, elle est assez discrète. On n'y pense même pas souvent lorsqu'on parle de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Mais après avoir quitté le territoire de Woluwe-Saint-Lambert par le nord, la Woluwe passe en région flamande. Au bout de son parcours d'environ 15 à 21 km, d'après les infos que j'ai pu comprendre, ses eaux de surface et son collecteur se dirigent vers Vilvoorde et Mechelen, où elle se jette dans la Seine. La Seine elle-même, un affluent de la Dyl, puis de l'Escaut. Et l'Escaut va, bien sûr, jusqu'à Anvers, où elle passe la frontière néerlandaise avant de se vider définitivement dans la mer du Nord. Dans notre petit courant d'eau, le long du boulevard de la Woluwe, donne suite à quelque chose de beaucoup plus conséquent. De même pour cette note sur la grâce accordée à la fin du prophète Jérémie à Jéhoiakim. Cela nous mène à quelque chose de beaucoup plus conséquent, à quelqu'un de beaucoup plus conséquent, à Jésus-Christ. C'est en lui, grâce à la nouvelle alliance en son sang, que les hommes et les femmes peuvent devenir membres de son peuple. Un peuple composé, oui, des descendants de Juda, mais aussi de d'autres nations, parce que c'est un peuple composé par la foi, la confiance en ce que ce roi obéissant a pu accomplir de par sa mort et sa résurrection. Grâce à lui, Dieu bâtit un peuple. Il plante un germe qui donne suite à ce peuple international qui fait appel à lui par la foi. Je me réjouis de savoir que les Anglais vont jouer contre les Congolais mercredi prochain, mais je me réjouis que les deux anciens de cette église qui représentent ces deux pays ont trouvé la paix qui, peu importe qui gagne, et on sait qui va gagner, n'est-ce pas, ont trouvé la paix par la grâce que le Seigneur nous a faite en Jésus-Christ. Le fait de dépendre de Jésus, de placer notre confiance en lui afin d'être gracié par lui, c'est ça ce qui fait la différence. Ce n'est pas à travers tout un tas de pratiques religieuses ou de prières ou de techniques de méditation ou autres. Non, Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Lui seul mène ses brebis, se reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui permet que nous passions de la mort à la vie, ce que symbolise le baptême que Pamela va recevoir d'ici une petite heure. Et donc, c'est en lui que nous pouvons connaître l'assurance, hein, ne pas manquer de rien, pour reprendre le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en tant que croyant en Jésus-Christ, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. En tant que berger, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et donc, c'est juste que notre série termine, notre semestre termine, avec l'accent sur Jésus-Christ, le descendant de David. Car il y a un danger lorsque nous sommes dans une église, que nous pensons que nous devons terminer une telle série ou un tel semestre avec ce que nous devons faire, sur le fait de devoir mieux faire dans notre vie chrétienne, mieux obéir, mieux faire preuve de discipline spirituelle. Mais la source de la vie chrétienne, c'est de comprendre à quel point Christ a tout fait pour nous. Une marque de la maturité chrétienne, c'est de progresser comment ? Dans la connaissance de Dieu. La connaissance de ce Dieu qui accomplit ce qu'il promet envers ceux qui se tournent vers lui. Il nous sauve, ce Dieu. Il nous donne une espérance vivante. Il nous remplit de son esprit. Il nous a pardonné. Tout ça par la foi en ce qu'il a fait pour nous. Et le baptême, à titre d'exemple, n'est pas une étape de maturité dans la foi, un signe plutôt d'entrée dans la foi. Le baptême ne dit pas « Regardez-moi, à quel point maintenant je suis mûr en Christ ?» Non, le baptême dit « Regardez Christ et regardez ce que lui, il a fait pour moi. » Et nous faisons ce baptême en Église parce que cela est témoin de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. C'est notre point en commun, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Oui, bien sûr, si nous regardons Christ, si nous contemplons la grandeur de ses bénédictions que nous avons reçues de sa part, cela ne peut pas nous laisser indifférents. Mais c'est toujours son amour envers nous qui est la racine de notre amour envers lui. Donc prenez courage, chers amis, chrétiens parfois fatigués, peut-être douteux de vous-même, de votre faiblesse physique ou morale, car ce que Dieu promet, il accomplit. Pas parce que toi tu es à la hauteur de son amour, parce qu'il nous a aimés le premier, en Christ. Je propose qu'on termine avec ce chant qui nous dirige vers Christ. « Quand l'aurore resplendit, je contemple Christ. À la tombée de la nuit, je contemple Christ. Quand je chante d'allégresse, je contemple Christ. Dans les larmes de détresse, je contemple Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, ma ferme espérance, couronne de joie et de justice, éternelle délice de mon âme et mon chant, je contemple Christ. » Et je lis encore le verset 3, la strophe 3, 4, et c'est la même chose. Je contemple Christ, parce que Christ seul est digne de toute notre adoration. Je vous invite à vous lever directement et nous allons entamer avec ce chant.